Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour cette édition du journal de Nu Info. Au menu, au moins 208 personnes ont été tuées lors des manifestations en Iran, selon le commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Le Conseil de sécurité examine la performance du maintien de la paix de l'ONU. Le comité contre la torture s'inquiète du recours à la détention de migrants au Niger. Et en dossier, nous revenons sur l'importance de la COP25 pour les petits exploitants agricoles. Au moins 208 personnes ont été tuées lors des manifestations en Iran, annoncé vendredi le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Les services de Michelle Bachelet estiment que le bilan réel est probablement supérieur. Des manifestations qui ont aussi donné lieu à des milliers d'arrestations. C'est pourquoi le Bureau des droits de l'homme exhorte les autorités à agir avec plus de transparence et à respecter le droit des Iraniens d'exercer leur liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association. Rupert Colville, porte-parole du Haut-Commissariat.
Au moins 7000 personnes auraient été arrêtées dans 28 des 31 provinces iraniennes depuis que des manifestations ont éclaté le 15 novembre. Et la haut-commissaire Michelle Bachelet s'est déclarée extrêmement préoccupée par le traitement physique et la possibilité qu'un nombre important de manifestants arrêtés soient accusés d'infractions passibles de la peine de mort. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU dispose d'informations selon lesquelles au moins 208 personnes ont été tuées, dont 13 femmes et 12 enfants. Il existe également des rapports que le haut-commissaire n'a pas été en mesure de vérifier jusqu'à présent, qui laisse à penser qu'il y ait eu deux fois plus de morts. Avec autant de morts signalées, il est essentiel que les autorités agissent avec beaucoup plus de transparence, a dit Mme Bachelet. Par ailleurs, les forces de sécurité ont répondu aux manifestations avec des canons à eau, des gaz lacrymogènes, des matraques et dans certains cas des tirs à balles réelles contre des manifestants non armés qui ne représentaient aucun risque imminent de mort certaine ou de blessures graves. Selon certaines informations, des membres de la milice Basiji et du corps des gardiens de la révolution auraient été impliqués dans les fusillades de manifestants.
Une réunion sur la performance du maintien de la paix a eu lieu ce vendredi au siège de l'ONU, à l'initiative des États-Unis qui président en décembre le Conseil de sécurité. L'occasion pour le secrétaire général des Nations Unies de souligner que la performance du maintien de la paix est de la responsabilité collective de tous les États membres, à commencer par les membres du Conseil de sécurité. Antonio Guterres est notamment revenu sur les défis auxquels est confrontée la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Pascal Sim nous en dit plus.
Antonio Guterres a indiqué que des progrès ont été engrangés dans l'amélioration de la sécurité des soldats de la paix. Le nombre de décès de casques bleus dus à des actes hostiles est passé de 58 en 2017 à 27 en 2018 et à 23 en 2019. Mais sur les 23 victimes enregistrées cette année, 22 étaient des soldats de la paix de la MINUSMA, notre mission la plus dangereuse, a rappelé le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres estime que davantage doit être fait pour appuyer les missions de maintien de la paix évoluant dans les environnements les plus difficiles. Au Mali, les Nations Unies envisagent de reconfigurer la force de la MINUSMA et améliorent sa coordination avec les forces maliennes du G5 Sahel et françaises de Barkhane. Mais les solutions politiques doivent rester au centre de tous les efforts visant à instaurer une paix durable, a rappelé le chef de l'ONU. En l'absence de solutions politiques, les groupes armés peuvent essayer d'exploiter un vide du pouvoir et créer une insécurité encore plus grande, a-t-il prévenu. Malheureusement, il y a des limites à ce que les opérations de paix peuvent réaliser, a reconnu Antonio Guterres, indiquant que la lutte contre le terrorisme dépasse le mandat des missions onusiennes.
Le comité contre la torture s'est félicité vendredi de l'amélioration des lois carcérales, des efforts déployés pour lutter contre la traite des êtres humains et de l'interdiction des mutilations génitales féminines au Niger. Toutefois, les experts indépendants onusiens ont relevé une série de préoccupations. Ils redoutent notamment que le Niger ne se transforme en une nouvelle Libye, sentinelle de la migration vers l'Europe. Abdelwahab Hani, expert du comité contre la torture.
Il y a deux problèmes essentiels. Premièrement, l'État du Niger fait face à une crise migratoire énorme, mais nous avons remarqué l'hospitalité du Niger, mais aussi le recours quasi routinier à la détention des migrants. Et le Niger risque de se transformer en une nouvelle Libye où l'Union européenne essaie de pousser les migrants, de les garder là-bas sur place. Le deuxième problème structurel, c'est le problème de la lutte antiterroriste, avec un impact sur les personnes déplacées, des dizaines de milliers de populations civiles déplacées, mais aussi sur des enfants soldats. Les derniers problèmes rencontrés, c'est des problèmes liés à un ordre traditionnel culturel. Le Niger a fait des efforts énormes pour combattre des pratiques traditionnelles préjudiciables qui comportent la torture et des mauvais traitements, notamment la pratique de l'ouahaya, l'esclavage des femmes, de la cinquième femme, et aussi l'esclavage à l'égard des enfants en fonction de leur ascendance. Nous avons formulé un certain nombre de recommandations au Niger, mais nous avons souligné aussi l'attitude positive de la délégation qui, se tenant durant l'examen, a accepté certaines recommandations du comité.
La conférence de l'ONU sur le changement climatique COP25 se tient à Madrid jusqu'au 13 décembre. Jusqu'à récemment, l'agriculture faisait peu partie des discussions et des négociations, mais cela est en train de changer. C'est ce qu'affirme Sébastien Subsol, un expert du FIDA sur les changements climatiques. Au micro de Caroline Chaumont, il explique l'importance de la COP25 pour les petits exploitants agricoles.
Alors cette COP est importante parce qu'elle arrive à un moment où l'agriculture est très importante dans les négociations climatiques. Elle arrive notamment après un rapport du GIEC sur les liens entre changement climatique et l'usage des terres, ainsi qu'après le sommet de haut niveau sur le climat qui a eu lieu en septembre à New York, qui avait vraiment pour sujet cette question des systèmes alimentaires durables et l'utilisation de plus en plus de solutions basées sur la nature et de la restauration des écosystèmes dans les territoires ruraux.
Vous mentionnez le dernier rapport du GIEC. Pourquoi ce rapport est-il important ?
Le rapport du GIEC nous indique que la mise à l'échelle de bonnes pratiques agricoles, au lieu de faire de l'agriculture un secteur qui va émettre des gaz à effet de serre, peut faire de l'agriculture un secteur qui va pouvoir permettre de stocker du carbone dans les sols, dans les arbres, très présents dans certains systèmes agricoles, et en fait créer des puits de carbone, transformer l'agriculture et les systèmes alimentaires en puits de carbone.
Pourquoi les petits exploitants agricoles sont-ils concernés par ce qui va se passer à cette COP ?
Alors, les petits exploitants agricoles, ils sont majoritaires dans la plupart des pays du monde. Il ne faut pas le perdre de vue, nourrir 10 milliards d'êtres humains en 2050. Et donc, la résilience de ces petits exploitants agricoles est un point essentiel. Ce n'est pas perdu de vue par les États. Par exemple, 100% des pays africains ont inclus l'agriculture dans leur contribution nationale à l'accord de Paris. Et c'est là que se situe le lien. Parce que durant la COP, les discussions vont vraiment démarrer pour la révision des ambitions de ces contributions nationales à l'accord de Paris. Les pays doivent proposer une hausse de leurs ambitions en 2020. Ça va concerner autant les aspects de mitigation, c'est-à-dire moins émettre de gaz à effet de serre, séquestrer du carbone, que les actions d'adaptation au changement climatique. Et la révision de ces documents nationaux, elle doit aboutir à des impacts vers les petits producteurs agricoles. Elle doit aboutir à amener de la finance climatique à leur niveau pour leur permettre de s'adapter sur leur ferme, d'investir dans des pratiques anti-érosives, d'investir dans de nouveaux systèmes de production comme l'agroforesterie.
Que va promouvoir le FIDA à cette COP ?
On va promouvoir l'intégration du changement climatique et de la résilience au changement climatique, pas seulement au niveau de la production agricole, mais tout au long des filières, pour transformer les systèmes alimentaires et les rendre plus durables, plus résilients au changement climatique. Alors ça passe aussi par exemple, pas seulement par des pratiques agricoles au niveau du champ, mais aussi par l'adoption et la mise à l'échelle de solutions liées aux énergies renouvelables, alors soit pour faire du pompage solaire, ou alors pour transformer les aliments, par exemple sécher des fruits ou moudre des grains. Également dans le secteur de la conservation des produits sensibles, notamment dans les pays chauds, comme le poisson et le lait.
Que fait le FIDA pour aider les petits agriculteurs à s'adapter au changement climatique ?
Le FIDA, depuis 2012, a un programme très important qui s'appelle le programme d'adaptation de la petite agriculture au changement climatique. Son acronyme, c'est ASAP. Et ce programme, en fait, est actif en ce moment dans 40 pays. Il touche 6 millions de producteurs agricoles. Et il envisage de restaurer avec des pratiques agricoles résilientes au climat 2 millions d'hectares de terres. Et il a des fondamentaux qui sont très importants pour l'adaptation au changement climatique. Premièrement, pouvoir avant l'action bien identifier quelles vont être les tendances futures du climat et les impacts sur le secteur agricole. Ensuite, promouvoir auprès des petits producteurs agricoles des innovations qui vont permettre de répondre à ces risques. Et troisièmement, dans les pays, promouvoir une mise à l'échelle de ces solutions en les liant aux politiques nationales, et notamment aux politiques agricoles et de sécurité alimentaire.
Voilà, fin de ce journal de Nu Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi, même heure, même fréquence.